Vous êtes sur RTL. Oui.
RTL Midi.
Le 12-30, Christelle Rebière.
Bonjour à tous, bienvenue dans RTL Midi. Et en ce mardi 13 avril, comment se protéger du variant brésilien? Le virus représente déjà 20% des contaminations au Portugal. Il est très peu présent encore en France. Mais il y a toujours des vols quotidiens avec le Brésil. Faudrait-il prévoir une quarantaine obligatoire et surveillée? Peut-on fermer nos frontières? Que dit la loi, tout simplement? Nous ferons le point avec le constitutionnaliste Jean-Philippe Derosier. Les élections régionales auront lieu au mois de juin, mais elles seront sans doute décalées d'une semaine. Annonce ce matin sur RTL de Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale. Jean Castex devrait le confirmer cet après-midi. Ça permettrait de gagner une semaine de vaccination. Dans RTL Midi aussi, les gardés à vue frappés au portefeuille, ceux qui se prétendent insolvables vont se voir confisquer leur argent liquide. Plus 13%, c'est le chiffre du jour qui correspond au bond du marché du bricolage en 2020. Confinés à l'intérieur, nous sommes devenus décorateurs. PSG Bayern, il ne va pas falloir bricoler en quart de finale retour de la Ligue des Champions ce soir au Parc des Princes. La météo, bonjour Peggy Broch.
Bonjour Christelle.
Une belle lumière printanière.
Et oui, c'est vrai que ça fait du bien côté ciel, c'est très agréable, avec un beau soleil sur toute la moitié ouest et le sud-est, un peu plus variable des frontières du nord au massif central, mais pas grand-chose, une petite averse possible sur le relief des Vosges ou sur l'Alsace, et également entre les Alpes-Maritimes et la Corse. Notez que le vent est bien présent, le Mistral dans le sud. Côté température, ça reste frais, surtout au nord, de 9 à Langres à 19 à Perpignan, 10 à Lille, 12 à Paris, 13 à Limoges et 17 à Bordeaux.
La question du jour sur RTL.fr, faut-il une quarantaine obligatoire face aux variants brésiliens? On attend vos appels, vos arguments, 32-10. Bonjour Pascal Pro.
Bonjour Christelle, ce sera l'un de nos sujets majeurs aujourd'hui. Faut-il suspendre les vols avec le Brésil? Faut-il imposer cette quarantaine? Faut-il renforcer les contrôles, etc., etc. Face aux variants brésiliens, c'est sans fin, si j'ose dire. Du football ce soir, le PSG peut se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Vainqueur à l'aller 3-2, les Parisiens vont-ils éliminer l'ogre du Bayern? Et puis, êtes-vous bricoleur? Figurez-vous que le secteur du bricolage a bondi de 13% l'an dernier. Je ne me sens pas vraiment concerné, pour des raisons évidentes d'ailleurs. Donc venez nous parler bricolage.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
Et pour commencer, si vous avez aimé les dîners clandestins haut de gamme du Palais Vivienne à Paris, vous allez adorer le Tripot de l'avenue Foch. Un appartement de luxe sur 4 étages abritait non loin de l'Arc de Triomphe une salle de jeu très très sélecte, Guillaume Chiez.
Ouais, c'est d'abord en enquêtant du côté de Champigny-sur-Marne, en banlieue parisienne, que les enquêteurs ont dégoté ce Tripot, une salle plutôt classique avec quelques tables de poker. Mais les malfaiteurs qui le tiennent voient grand, très grand même, et en mars dernier, ils déménagent direction le très chic 16e arrondissement de la capitale, et un appartement de 250 mètres carrés que nous décrit Éric Lévy-Valency. Il est directeur adjoint du service central des courses et des jeux.
Il faut s'imaginer avec des grandes pièces, des grands volumes, un ascenseur privatif, un gardien à l'entrée, enfin un décorum auquel nous ne sommes pas habitués dans le démantèlement de nos tripots. Cette équipe proposait un certain nombre de services, la restauration, des cigarettes, et il y avait des jeunes femmes qui proposaient des prestations de massage. Ces serveuses masseuses permettaient de fidéliser la clientèle et surtout de permettre à ceux-ci de jouer le plus longtemps possible.
Dans la nuit de jeudi à vendredi dernier, les enquêteurs accompagnés de la BRI ont donc mis un coup d'arrêt aux activités de ce Tripot. Les 8 hommes qui le tenaient et 4 masseuses présentes ont été placés en garde à vue. Quant aux clients assis aux tables de poker à ce moment-là, ils s'en sont sortis avec une simple amende pour non-respect du couvre-feu.
Récit Guillaume Chiez. On vaccine partout, chez les médecins, les pharmaciens, à domicile parfois, dans les vaccinodromes et désormais dans un vaccidrive. Très populaire aux États-Unis, le premier vaccidrive vient d'ouvrir à Saint-Jean-de-Védas, près de Montpellier. Patrick Hisson, on se gare et on se fait piquer à l'entrée de la clinique Saint-Jean.
Exactement, et ce fut le cas ce matin pour Jean-Michel, l'un des premiers à bénéficier du Vaccidrive.
Allez, on peut y aller. Tout bien?
Ouais. Regardez s'il est beau mon passement.
Oh là là. Ah, je vais le garder
dessus. Vous restez un quart d'heure en surveillance.
D'accord, ça marche.
Voilà.
Allez, merci.
Un quart d'heure plus tard, tout va bien pour Alain qui a sauté sur l'occasion aujourd'hui.
Il y a plus d'autonomie, il y a plus de liberté. On est dans sa voiture et ça évite de faire des queues interminables devant des hangars. Ça me faisait un peu peur quand je voyais ça à la télévision. C'est une bonne solution.
Lamine Garbi est le président du groupe Cap Santé à l'origine de ce premier Vaccidrive.
Il reste 30% quand même de patients qui ont des réticences, des craintes. Donc voilà, il faut aller les chercher. Il faut chercher ces patients. Donc c'est une alternative qui permet de compléter l'offre. Si demain cette idée venait à prospérer, on pourrait imaginer que sur l'ensemble du territoire, il y ait des dizaines, voire des centaines de Vaccidrive.
Enfin, vaccinés, certains ont également eu la surprise aujourd'hui d'être récompensés.
On souhaitait vous offrir un bouquet de fleurs, comme vous êtes parmi nos tout premiers patients du Vaccidrive. On vous remercie de votre confiance.
Et en plus, vous avez des fleurs.
Ouais, mais enfin, on va être contente. Hein. Elle m'a dit, tu retournes demain peut-être. Voilà, moi, un deuxième bouquet, je sais pas.
Mais pour cet habitant, il faudra bien sûr attendre 4 semaines pour la deuxième injection du vaccin Pfizer qui était utilisée ce matin.
En tout cas, on a le sens de l'accueil hein, au Vaccidrive de Saint-Jean-de-Védas. Merci Patrick Hisson. Faut-il s'inquiéter du variant du Covid qui fait des ravages en ce moment au Brésil? La moitié des personnes en réanimation là-bas à moins de 40 ans. Des spécialistes alertent. Alors, faisons le point avec vous, Agathe Landais. D'abord, il faut raison garder. Ce variant brésilien représente actuellement en France 0,4% des contaminations.
Oui, 0,4%, alors que le variant sud-africain représente, lui, 5% des cas positifs, et l'anglais, plus de 80%. Le tout premier cas de variant brésilien a été détecté chez nous il y a 2 mois et demi. Il ne parvient pas pour le moment à se développer, car il est en fait en compétition avec les autres variants, et il reste pour le moment ultra dominé. Malgré tout, il faut le prendre très au sérieux, estime Rémi Salomon, le président de la commission médicale d'établissement de la PHP, invité de RTL ce matin.
Il est probablement plus contagieux que le variant britannique, qui, je vous le rappelle, lui-même était plus contagieux que le précédent, qu'à la souche historique. Donc, si on lui laisse le temps, il va probablement rentrer dans une phase de croissance rapide, voire exponentielle.
Et pour ne pas lui laisser le temps, donc, de se développer, les scientifiques appellent à fermer les portes dès maintenant avec le Brésil.
Bon, et est-ce que les vaccins sont efficaces contre le variant brésilien?
Eh bien là, les études sont toujours en cours. Rappelons que ce variant brésilien n'est apparu qu'il y a 4 mois au Brésil. Donc aujourd'hui, chaque labo teste son propre vaccin sur cette souche qui, comme le variant sud-africain, comporte une mutation qui lui permet de résister aux anticorps. Aujourd'hui, seul Johnson & Johnson affirme que son vaccin reste efficace car il a été en partie testé au Brésil.
Et Johnson & Johnson, c'est le vaccin qui arrive cette semaine en France.
Exactement.
Merci Agathe. Face à la menace du variant brésilien, comment sont surveillées nos frontières? 2 vols venant du Brésil sont arrivés ce matin à Paris. Arnaud Touche, quelles sont les règles pour les passagers?
Alors, il faut qu'il présente à l'arrivée un test PCR négatif. Il faut également une attestation avec un motif impérieux. Et enfin, tous les passagers qui arrivent du Brésil sont conduits sous une tente où sont pratiqués des tests antigéniques. Si tous ces documents et tests sont en règle, le passager a le droit de pénétrer sur le territoire français. Mais il doit s'engager sur l'honneur à s'isoler. Soit le passager a une adresse en France et ce sera donc là-bas, soit ce sera dans un hôtel à ses frais.
Mais en Angleterre, par exemple, la quarantaine est extrêmement stricte.
Oui, je vous le confirme. Si vous arrivez du Brésil, vous avez l'obligation de vous isoler pendant 10 jours à vos frais dans un hôtel agréé par le gouvernement. Le tarif est même inscrit clairement sur le site, un peu plus de 2000 euros pour 11 nuits. C'est à vous de le réserver avant d'arriver. Si vous oubliez de le faire, c'est jusqu'à 4600 euros d'amende. Enfin, si vous ne respectez pas les règles de la quarantaine, une amende peut vous être infligée jusqu'à 11 500 euros et jusqu'à 10 ans de prison si vous ne donnez pas la liste des pays que vous avez visités 10 jours avant votre arrivée.
Les précisions d'Arnaud Touche. On fait une pause et dans un instant, on revient justement sur cette quarantaine et sur l'éventualité d'une fermeture des frontières avec Pascal Praud.
RTL Midi. RTL Midi.
Avec Christelle Rebière.
Revenons sur la question du jour sur RTL.fr. Faut-il une quarantaine obligatoire face aux variants brésiliens? Pour l'instant, du côté des autorités, c'est le statu quo. On ne change pas les règles et ça vous laisse assez pantois, Pascal Praud.
Ben, vous dites quarantaine, moi je vais plus loin. Comment est-il possible que les vols en provenance du Brésil ne soient pas suspendus? Comment est-il possible que ce gouvernement si prompt à enfermer les Français, si rapide pour inventer des attestations, si empressé d'instaurer de nouvelles règles, comment se fait-il que ce gouvernement ne comprenne pas que 1000 passagers par semaine qui arrivent de Sao Paulo ou de Rio constituent un danger sanitaire pour la France? Le variant brésilien fait des ravages. Il recontamine ceux qui ont déjà eu la Covid. Ces mutations successives font craindre le pire. On parle d'une 4e vague, c'est ce que disait Rémi Salomon il y a quelques secondes. Et on attend je ne sais quoi pour fermer les frontières. En fait, c'est sans fin, mais en Europe, chaque pays attend que l'autre suspendre les vols, on n'en sortira jamais. Cette histoire est un des symboles, un de plus, de la paralysie de l'Europe.
Ben justement, on va voir. C'est l'occasion ou jamais de voir ce que dit la loi. Et nous sommes avec le constitutionnaliste Jean-Philippe de Rosier. Bonjour.
Bonjour.
L'opposition, et en particulier Damien Abad, le président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale, demande ce matin la fermeture des frontières, la fermeture pure et simple des frontières. Est-ce que c'est possible ?
En réalité, les frontières sont déjà fermées. Le gouvernement communique sur le sujet et la position officielle, c'est que les frontières extra-européennes sont fermées et que ce sont les frontières intra-européennes, donc l'espace Schengen, qui demeurent ouvertes. Peut-être faudrait-il aller encore au-delà et fermer également celles-ci. Mais on ne peut pas les fermer totalement. On ne peut pas interdire à des personnes qui ont un motif absolument valable de rentrer sur le territoire, notamment si elles sont des ressortissants français, si elles vivent en France et qu'à un moment donné, elles ont dû sortir pour leur travail.
C'était le discours du ministre des Transports, là, hier, Jean-Baptiste Djebbari. Il disait justement que le Conseil d'État faisait valoir la liberté de circulation pour les ressortissants français, les résidents en France. C'est ce que vous nous dites aussi ?
Absolument, absolument.
Donc on est obligé de maintenir une liaison aérienne avec le Brésil pour les ressortissants français.
Alors effectivement, on est obligé de le faire, sauf à passer un cap, mais qui serait un cap absolument extrême, qui relèverait là davantage des relations diplomatiques avec le Brésil, de dire on veut couper tous les ponts aériens entre la France et le Brésil. Il ne faut pas oublier que nous avons une frontière commune avec le Brésil. La France est présente en Guyane, la Guyane est en frontière directe avec le Brésil. Si la France fermait totalement ses frontières, c'est du cas absolument, j'insiste, c'est du cas absolument extrême, qui ne se passe généralement que dans des hypothèses de guerre et que l'on ne veut pas, que je ne souhaite pas en tout cas personnellement envisager.
Alors parlons maintenant,
il peut y avoir des restrictions, qui sont officiellement déjà en vigueur. Le tout est ensuite effectivement de les appliquer.
Le variant brésilien, il circule déjà beaucoup en Europe et en particulier au Portugal. Il y a 20% des personnes contaminées qui présentent le variant brésilien. Est-ce qu'on peut fermer les frontières avec un autre pays membre de l'Union européenne ?
Oui, formellement c'est possible. Il faut une coordination également avec l'Europe. Il faut en aviser la Commission européenne. Cela pose un certain nombre de problèmes qui la France ne veut pas s'engager à ce niveau-là. Mais il est tout à fait envisageable de fermer les frontières également à l'intérieur de l'Europe.
Est-ce qu'on a le droit d'imposer une quarantaine obligatoire dans un hôtel, par exemple, à tous ceux qui arrivent du Brésil ? Et pas seulement se contenter d'une déclaration d'isolement sur l'honneur.
Alors ça aussi, c'est déjà en vigueur. Nous sommes sous le régime que l'on appelle l'état d'urgence sanitaire. La loi permet les placements en quarantaine, sauf que ce doit être des mesures individuelles. Vous comprenez bien que s'agissant de mesures, pour dire les choses simplement, d'enfermement, il faut apprécier au cas par cas si la personne est en mesure d'être enfermée, à quel endroit. Et donc, ce sont des mesures individuelles qui doivent être prises.
Ça n'a pas l'air de gêner les Anglais qu'ils font ça. Ça ne dégêne pas
écoutez,
du tout. Écoutez,
il y a une affaire de communication aussi. Moi, je ne suis pas allé en Angleterre dernièrement. Je ne sais pas ce qui s'y passe concrètement. Je serais particulièrement surpris que la moindre personne qui met un orteil sur le territoire britannique soit immédiatement alpaguée par les forces de l'ordre et enfermée dans un cachot pendant 14 jours. Maintenant, ils disent que c'est le cas, ça peut être le cas, mais je serais quand même assez surpris que ce soit effectivement le cas.
Merci beaucoup pour tous ces éclaircissements. Merci à Jean-Philippe de Rosier. Pour toutes ces précisions, merci d'avoir été l'invité de ce journal. Les élections régionales auront bien lieu au mois de juin. 56% des maires qui ont été consultés y sont favorables. Mais Jean Castex pourrait annoncer un décalage d'une semaine. Révélation ce matin sur RTL de Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale.
Le Premier ministre va proposer que les élections aient lieu au mois de juin, peut-être en décalant jusqu'au 27 juin le deuxième tour, ce qui était ma deuxième proposition.
Dites-moi, il va proposer de reporter librement. D'une semaine ou pas cet après-midi à l'Assemblée nationale.
Et je m'en félicite, oui.
Donc soit maintient les 13 et 20 juin, soit report les 20 et 27 juin.
C'est cela.
Richard Ferrand qui était l'invité d'Alba Ventura. Jean Castex devrait l'annoncer cet après-midi aux députés. Vincent Derosier, pourquoi ce décalage?
Alors d'abord pour des raisons sanitaires. Une semaine de décalage, c'est une semaine de vaccination en plus et donc plus de Français protégés, fait valoir l'entourage du Premier ministre. Il y a aussi un aspect pratique. En décalant le premier tour au 20 juin, ça laisse plus de temps aux communes pour se préparer, respecter les règles sanitaires ou trouver des assesseurs. D'ailleurs, Matignon confirme qu'un monsieur ou une madame élection sera bien nommée dans les prochains jours. Jean Castex ne révélera pas son identité aujourd'hui, mais il devrait s'agir d'un préfet qui sera chargé de répondre à toutes les questions des élus et qui sera l'interlocuteur privilégié des communes qui réclament un soutien de l'État. Et puis, il y a de la politique dans tout ça, bien sûr. Les candidats auront 7 jours de rab pour se faire connaître, tenter de susciter l'intérêt des Français aussi, alors que la crise sanitaire écrase tout. Enfin, cette option permet en quelque sorte de ne pas humilier François Bayrou ou Richard Ferrand qui réclamaient un report du scrutin, puisque Jean Castex donne raison aux partisans d'un maintien des dates de juin et à ceux d'un report en décalant quand même d'une semaine, une sorte de « en même temps » à la sauce régionale.
Vincent Derosier. RTL vous le révélait ce matin, le gouvernement veut taper les gardés à vue au portefeuille. Le ministère de la Justice veut que soit saisi l'argent liquide trouvé sur ceux qui se prétendent insolvables. En fait, Thomas Proutot, c'est une arme anti-fraude.
Absolument, et sa cible principale, c'est le délinquant qui accumule les contraventions impayées. Comment ça marche? Eh bien, si plus de 300 euros sont retrouvés lors de la fouille d'un suspect au début de n'importe quelle garde à vue, le commissariat prend attache avec le fisc qui vérifie les éventuelles ardoises de la personne. Si elles existent, un huissier vient saisir le cash. Alors, le dispositif a été expérimenté dans plusieurs commissariats avec succès, selon le ministère de la Justice, qui cite une ville où 45% des sommes trouvées sur les gardés à vue en 2020 ont pu être saisies. La chancellerie appelle donc les parquets à généraliser la pratique, ce qui laisse dubitatif l'avocat pénaliste Yacine Bouzereau.
La première difficulté, c'est qu'il y a des gens qui ont des dettes, mais qui préfèrent privilégier le paiement, je ne sais pas, de la cantine de leurs enfants, par exemple, avant de régler des dettes plus importantes face au fisc ou face à un autre organisme. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a beaucoup de placements en garde à vue abusifs aujourd'hui. Le temps de savoir si une personne a réellement des dettes, réellement des arriérés, ça va permettre de maintenir des individus en garde à vue pendant un certain temps, alors que ce n'est pas forcément nécessaire.
Alors la généralisation sur tout le territoire n'est peut-être pas pour tout de suite, car pour cela, il va falloir que chaque procureur signe une convention type avec police, gendarmerie et direction départementale des impôts, ce qui risque de prendre un peu de temps.
Thomas Proutot, à l'étranger, comment se débarrasser de l'eau qui a servi à refroidir les cœurs des réacteurs nucléaires de la centrale de Fukushima? Le Japon va finalement rejeter dans l'océan Pacifique plus d'un million de tonnes d'eau retraitée. Elles sont actuellement stockées dans un millier de citernes. Les pêcheurs du nord-est du Japon s'inquiètent pour l'image de leurs produits auprès des consommateurs. On fait une pause et dans un instant, PSG Bayern, rêvons plus grand.
RTL Midi.
Avec Christelle Rebière.
Un jardin à réenchanter, c'est le titre de l'équipe. Alors on parle de ce qui va se passer sur le gazon du Parc des Princes ce soir, où le PSG reçoit le Bayern Munich en quart de finale retour de la Ligue des Champions. Les Parisiens ont gagné 3-2 à l'aller, mais les sextuples champions d'Europe vont tout donner. Et aussi bizarre que cela puisse paraître, les Parisiens sont plus performants à l'extérieur qu'à domicile, Nicolas Georgerot.
Oui, c'est une constante dans les affiches de Ligue des Champions ou de championnat cette saison. Au Barça, au Bayern, à Manchester United, mais aussi à Lyon en Ligue 1 par exemple. Toutes les rencontres références ont été établies loin du Parc des Princes. Les huis clos, c'est certain, changent en partie la donne. 6 défaites à domicile, un bilan qui interpelle l'entraîneur Mauricio Pochettino.
C'est une question à laquelle nous n'avons pas de réponse. C'est très difficile de dire pourquoi il y a une telle différence entre les matchs à domicile et à l'extérieur. On va devoir se pencher sur la question à la fin de la saison, mais j'espère qu'on va inverser la tendance contre le Bayern.
D'autant que les champions d'Europe, en Bavière ou loin de leur base, jouent toujours de la même façon. Jeu offensif, intensité, prise de risque, absence de calcul. 3 ans et demi, ça en dit long. 3 ans et demi que les Bavarois n'ont pas connu un revers à l'extérieur en Ligue des Champions. C'était précisément à Paris, un soir de septembre 2017.
Notez aussi que ce soir, Chelsea reçoit Porto. RTL Foot spécial Ligue des Champions à partir de 20h45 avec Christian Olivier, Xavier Domergue et Philippe Sanfourche au commentaire. Le confinement nous a contraints à être casaniers. gagner, mais ce cocooning forcé nous a rendus bricoleurs. Le secteur a bondi de 13% en 2020, c'est inédit. Alors pour en parler, nous sommes avec Caroline Hupin de la Fédération des magasins de bricolage et de l'aménagement de la maison. Bonjour.
Et bonjour.
Nous nous sommes donc offert un bon ravalement intérieur.
Oui, je crois qu'on peut dire ça. Comme vous dites, ce sont des chiffres exceptionnels. C'était une année hors du commun de toute façon. Et cette croissance a été rendue possible d'abord parce qu'on a fait partie des commerces qui ont pu continuer d'ouvrir. Oui. Donc vous me permettrez évidemment de dire que nous déplorons évidemment que les commerces doivent fermer pendant les confinements. Mmh. Donc un tel contexte, ça appelle à de l'humilité et on dira surtout que cette croissance traduit surtout le fait que les entreprises du bricolage se sont mobilisées sur le service en ligne pour pouvoir servir leurs consommateurs même à distance et tout en maintenant la qualité et l'accompagnement dans les magasins pour que les Français puissent réaliser tous leurs projets.
Mais justement, quels étaient leurs projets ? C'était plutôt des travaux légers ou des travaux lourds ?
Oui, ça, c'est une question assez intéressante et elle se traduit en fait dans les croissances différenciées des rayons ou des magasins parce qu'on se rend compte que ce sont plutôt des travaux légers en fait.
C'est-à-dire ?
Je crois que les Français avaient sans doute besoin à la fois de travaux faciles parce qu'on a conquis de nouveaux publics et ils n'allaient pas tout de suite se lancer finalement dans des travaux assez considérables. Et je pense qu'ils avaient aussi besoin de résultats immédiats, ce qui fait qu'ils se sont d'abord équipés. On a de très fortes croissances sur l'outillage et puis après, sinon, c'est la décoration et la peinture qui sont les grands gagnants de cette croissance.
Est-ce que les femmes se sont mises au bricolage ?
Alors les femmes, vous savez, bricolent maintenant depuis un bon bout de temps. C'est vraiment un public qu'on a maintenant conquis depuis plusieurs années. En revanche, et ils avaient peut-être un peu disparu dans nos magasins, on a surtout conquis pour des jeunes publics, la tranche des 18-30 ans, qui se sont mis au bricolage pendant cette crise sanitaire.
Alors il y a un secteur en revanche qui ne marche pas du tout, c'est tout ce qui est alarme et vidéosurveillance, forcément, puisqu'on est à la maison.
Exactement, c'est vous qui étiez votre propre alarme, je pense.
Est-ce que vous pensez que c'est une vraie tendance ou que ce sera fini dès qu'on va retrouver les terrasses et les cinémas ?
Alors d'abord, on appelle tous de nos voeux la réouverture, mais de vraiment tout le monde, que ce soit les commerces, les musées, les cafés, les restaurants. On veut retrouver notre vie normale. Je crois que si on suit finalement la tendance qu'on a eue en 2020, on s'est rendu compte qu'avec les déconfinements, on maintenait quand même une très forte croissance à deux chiffres. Mmh. Donc ce sera du gagnant-gagnant pour tout le monde et comme je vous disais, comme on a gagné de nouveaux publics, on espère que ce sont de nouveaux passionnés et qui continueront de venir dans nos magasins, même avec les autres commerces ouverts.
Et ben voilà, votre secteur est optimiste au moins, ça fait plaisir et ça fait du bien. Merci Caroline Hupin de la Fédération des magasins de bricolage.
RTL, le coup de cœur de nos correspondants.
Et nous partons au musée d'art moderne et contemporain de Strasbourg. Alors officiellement, il est fermé, bien sûr, mais hier, les donneurs de sang ont pu bénéficier d'une visite très privée. Reportage Yannick Collant.
Eh ben, vous avez des super veines.
Ce sont 200 privilégiés qui ont pu donner leur sang au milieu des œuvres d'art du musée, ouvert juste pour eux. Deux bonnes raisons de venir pour Laetitia.
La petite cerise sur le gâteau, quoi. Quand j'ai vu ça, j'ai un peu sauté sur l'occasion parce que c'est aussi le moment de pouvoir profiter de ce genre d'endroit, quoi. Et là, on se sent vraiment particulièrement privilégié. C'est quand même une occasion en or, quoi. Mais j'ai eu beaucoup de chance parce qu'il restait quelque chose comme 3 places, un truc comme ça. Donc j'ai vraiment eu beaucoup de chance.
Estelle Pietric est la directrice du musée d'art moderne et contemporain de Strasbourg.
Il y a des gens qui sont venus pour ça et ça me réjouit parce que le public nous manque effectivement. Après avoir donné son sang, on peut aller regarder un Monet, on peut aller regarder un Signac, on peut dire bonjour à Gustave Doré. Et ça peut être assez réjouissant.
Nicolas, lui, est un habitué du musée, mais il s'est rendu compte que cela faisait presque 10 ans qu'il n'avait plus donné son sang.
C'est très bien, le petit coup de klaxon pour revenir régulièrement. Alors voilà, il faut se faire saigner, mais c'était sympa. Là, c'est parfait, quoi.
Et le succès est tel que des responsables du musée se demandent maintenant si ça ne vaudrait pas le coup de devenir un centre de vaccination pour permettre de partager à nouveau les chefs-d'œuvre avec le public.
Et penser à donner à cause du confinement, il n'y a plus de collecte en entreprise ni à l'université. Il manque actuellement 20 000 poches de sang pour être à un niveau normal. Pascal Praud est de retour parmi nous, il dialogue avec vous au 32-10 dans quelques minutes. Je ne vous demande pas un pronostic sur PSG Bayern, ce n'est pas la peine.
Mais non, parce que je suis une boussole qui marque dernière. Le nord, donc voilà je me trompe tout le temps.
On prend le contre-pied.
C'est ce qu'a fait Philippe Rey il y a un quart d'heure. Il m'a dit,
c'est le directeur de la rédaction.
Quel est ton pronostic ? Je lui ai dit ça, il me dit donc c'est le contraire. Donc voilà. Quand on écoute le constitutionnaliste De Rosier, ce qui est absolument fascinant, non seulement tu ne peux pas interdire les vols en provenance du Brésil, mais tu ne peux pas faire non plus de quarantaine. Donc en fait, tu ne peux rien faire.
Ah, c'est compliqué.
C'est, non, mais c'est compliqué, c'est pas compliqué. C'est-à-dire que tu as 1000 personnes qui arrivent du Brésil chaque semaine et on t'explique qu'avec les lois, bah, tu ne peux rien faire.
La loi ne permet pas de le faire.
Bah, très bien.
La loi telle
très bien,
qu'elle est
nous étonnons pas alors qu'il y ait du variant brésilien sur notre sol, puisqu'on ne peut pas faire de quarantaine et on ne peut pas arrêter les vols. C'est d'ailleurs...
On rappelle quand même le chiffre super important parce qu'il faut qu'on soit précis là-dessus. Là, 0,4. En France, c'est 0,4. Voilà. Parce que sinon, on va affoler tout le monde. On est, pas, on est à 80%.
Mais je suis d'accord avec vous. Mais
anglais, on est à 0,4.
Il était à 5% le variant anglais le 1er janvier.
C'est utile de le dire là, au moment où on parle.
Bah oui, mais comme il y en a 1000 chaque semaine, ça va vite augmenter, hein, je vous le dis.
Bon, ce sera le...
Quoi, 1000 chaque semaine, 1000 personnes.
Le sujet...
Moi, je trouve que c'est absolument incroyable, en fait, la séquence que nous vivons pour cela. Et on découvre des choses où, en fait, la marge de manœuvre des États est finalement assez limitée.
Exactement. Un coup d'œil au ciel, quand même, avec Peggy.
Allons-y.
Il fait toujours un peu trop frais, quand même.
Oui, c'est vrai, Christelle. À cette période, on devrait avoir une moyenne de 15 au nord, 17 au sud. On en est loin, en tout cas, pour le nord. Seulement 10 degrés au Havre et à Nancy, 11 à Caen, 12 à Paris et Bourges, 13 à Rennes, 14 à Grenoble, 15 à La Rochelle, 16 à Toulouse, ça remonte quand même dans le sud, 18 à Toulon et Montpellier, 19 degrés à Perpignan. Côté ciel, c'est vrai que c'est un beau temps calme, sec, avec beaucoup de soleil sur l'ouest et dans le sud-est, et un petit peu plus nuageux entre les frontières du nord et le massif central, mais franchement l'impression de beau temps est là, ne vous inquiétez pas, peut-être une petite averse sur le relief des Vosges et sur le sud de l'Alsace ou encore entre les Alpes-Maritimes et la Corse, et puis le vent, le Mistral est toujours bien présent avec des rafales à 80 km/h.
Et cette nuit encore dégelée sur presque tout le pays, c'est terrible pour nos agriculteurs.
Oui, c'est vrai. Alors, il y en aura un petit peu moins dans le sud-ouest, mais on attend encore moins 1 degré quand même à Auch, moins 3 à Ambérieu comme à Reims et Mulhouse, moins 1 à Metz et à Lyon, ainsi qu'à Orléans et Caen, 1 degré à Marseille, 2 à Paris comme à Toulouse. Les maximales seront stationnaires entre 10 et 14 au nord, jusqu'à 18 au sud. Côté ciel, globalement, encore une belle journée avec un peu plus de nuages au nord, peut-être une petite averse possible vers les Ardennes ou les Vosges dans la journée. Un ciel qui va se couvrir également au fil des heures entre les Alpes du Sud et la Corse avec un risque d'averse et de la neige dès 1400 mètres.
Merci Peggy.
Il est 13h.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Le variant brésilien avec en corollaire, faut-il interdire les vols du Brésil, même si c'est compliqué sur le plan légal. Nous sommes avec Alexandre, bonjour.
Bonjour Pascal.
Votre avis sur ces variants ?
Bah écoutez Pascal, je ne peux pas aller voir mes parents qui sont à 45 km et qui sont vaccinés, moi aussi vacciné, mais on peut venir du Brésil, donc tout est normal, ça continue.
C'est un bon raccourci, Christelle le rappelle des titres.
Alexandre Benalla, l'ancien collaborateur d'Emmanuel Macron à l'Elysée, renvoyé devant la justice pour les violences du 1er mai 2018 à Paris. Il sera jugé pour violences volontaires aux côtés de 3 autres personnes. Un second procès, donc, après celui pour utilisation frauduleuse de passeports diplomatiques. Un tripot clandestin haut de gamme démantelé à Paris. 12 personnes, dont 6 organisateurs, ont été arrêtées. La salle de jeu clandestine était située dans un immeuble cossu de l'avenue Foch, sur 4 étages, avec table, mais aussi services de restauration, chambres et massages. L'inquiétude face au variant brésilien, le plus contagieux du monde. Au Brésil, 52% des personnes en réanimation ont moins de 40 ans. En France, le variant ne représente pour l'instant que 0,4% des contaminations. Anne Hidalgo veut un lieu de mémoire active à Paris pour rendre hommage aux victimes de la pandémie. Le bilan devrait franchir la terrible barre des 100 000 morts cette semaine dans notre pays. Les élections régionales auront lieu au mois de juin, mais elles seront sans doute décalées d'une semaine. Annonce ce matin sur RTL de Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale. Jean Castex devrait le confirmer cet après-midi. Ça permettrait de gagner une semaine de vaccination.
Les auditeurs ont la parole.